vous parler de la prolifération des images, puisque c'est le sujet sur lequel vous m'avez invité. Donc vous voyez, j'affiche tout de suite la couleur. J'ai récupéré, évidemment, sur Internet, un mur d'images, hein, comme on en voit souvent. Disons que vous êtes tous jeunes, mais un mur d'images, il y a 20 ans, c'était juste le début des murs d'images, dans les magasins, dans les drugstores, dans les choses comme ça. Maintenant, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un mur d'images dans un magasin, dans un aéroport, dans une salle des pas perdus, dans un centre commercial, etc. Donc je vais vous parler de la prolifération des images aujourd'hui. Et j'ai un plan. Je vais vous parler des fêtes. Vous allez voir, vous avez certaines données qui vont vous surprendre. Ensuite, je vous me poserai la question, c'est une question très compliquée, hein, donc je ne vous embêterai pas longtemps avec ça. Je vous parlerai de ce que c'est qu'une image, de la pensée par image, et puis je finirai sur comment il faut, quelle attitude avoir face à ce déferlement, ce flot d'images. Ça, c'est le plan. Et donc, je commence par les fêtes. Les fêtes. Alors, le texte, vous pouvez le lire, vous pouvez pas le lire, mais je vais m'en servir. Quand vous le regarderez sur Internet, vous le verrez beaucoup mieux. Hein. J'ai pris un certain nombre de données, hein, pas toutes les données possibles et imaginables, mais c'est un texte de 2009, le vendredi 9 octobre, si vous voulez. Donc, c'est une dépêche d'agence disant qu'il s'est vendu, il se sera vendu cette année 2009 en France, environ 5 millions, vous entendez bien, nous sommes 66 millions, et ce sera vendu 5 millions d'appareils photo numériques. Je ne sais pas s'ils comptent les téléphones là-dedans, hein, mais 5 millions d'appareils photo numériques qui auront été vendus en 2009. Quand vous intéressez, ça c'est une chambre de professionnels qui dit ça, quand vous regardez combien les gens de France, en France font des photographies, hein, c'est une enquête Ipsos auprès de 1000 personnes, avec un appareil compact numérique qui font 468 clichés en moyenne. Hein. Donc encore une fois, je ne crois pas qu'on compte les photos sur appareil téléphonique, sur téléphone. 971 avec un boîtier réflexe, donc l'appareil de photo encore traditionnel, et en revanche, si c'est indiqué, 122 photos en moyenne par Français avec un téléphone portable. Alors, ce que font les gens avec ces photos? Les photographes amateurs, il y en a 77% le gardent sur leur appareil. Les gens gardent 77% de leurs photos, c'est-à-dire qu'ils en jettent 23%, 72% dans un réflexe, et ils en jettent beaucoup plus sur leur téléphone portable. Je vous pose pour des questions de mémoire, puisqu'ils n'en gardent que seulement 46%. Ils gardent qu'une image sur deux. Alors ensuite, ils les transfèrent sur ordinateur, ou les gravent sur CD ou DVD, etc. etc. Hein. Voilà, si vous voulez, sur le nombre de 5 millions d'appareils photos. Et les Français font, disons, en moyenne 400 à 500 photos. Hein? Je suppose par Français en âge de prendre des photographies. Hein? Bon, je change de fait. Un autre fait, tout à fait différent, sur la vidéosurveillance. Vous avez sûrement entendu parler, il y en a partout en France maintenant, il y en a beaucoup plus en Angleterre. Le nombre de caméras dans les espaces publics, que ce soit les gares, que ce soit les autobus, que ce soit les rues des villes, les espaces publics, les galeries commerciales. Bon, alors, le gouvernement veut tripler en 2 ans le nombre de caméras de surveillance. Ça veut dire passer de 20 000 caméras de surveillance à 60 000. Et à ce jour, il y a 340 000 caméras de surveillance autorisées, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les locaux commerciaux, dans les bureaux, etc. 340 000 et 20 000 sur la voie publique. Et encore une fois, le projet du gouvernement, c'est de tripler ce nombre de caméras de surveillance. Alors, vous avez, je sais, vous pourrez me poser des questions, hein, et discuter. Vous savez que sur les caméras de surveillance, les avis sont partagés, parce que, et d'ailleurs en fait, les mêmes personnes disent les deux choses à la fois, hein. C'est-à-dire tout le monde redoute la vidéosurveillance, c'est-à-dire que c'est la fin de la vie privée, hein, d'une certaine manière. Là, tout le monde redoute, mais en même temps, tout le monde en veut, bah, pour des raisons de sécurité. Hein. Et c'est les mêmes personnes qui veulent et qui veulent pas de la vidéosurveillance, parce que ça a des avantages, encore une fois, en termes de sécurité, et ça a des inconvénients. Eh ben, on n'est plus jamais seul. Hein. Je dis souvent que la vidéosurveillance est le retour de Dieu, hein, parce que dans le temps, on disait que Dieu, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Bon, bah là, avec la vidéosurveillance, c'est pareil. Hein. Les caméras voient tout, entendent tout et savent tout. Bon, 1 millier de caméras à Paris, 20 000 actuellement, bon, des grands budgets, etc. Mais si vous prenez un pays comme l'Angleterre qui est très en avance sur nous, j'ai su d'aller sur un site professionnel de visioconférence, c'est-à-dire des gens qui vendent des caméras pour la visioconférence, c'est-à-dire pour les conférences par vidéo. Eh bien, il y a un réseau en Angleterre qui s'appelle CCTV, Closed Circuit TV, qui est tentaculaire, disent-ils. Dans le métro de Londres, vous avez 6000 caméras qui scrutent les voyageurs, de même dans les magasins, les administrations. Et surtout, le chiffre qu'on cite très souvent et qui devrait vous marquer, c'est qu'un passant, entre son lieu de travail, entre son domicile et son lieu de travail à Londres, un passant est filmé 300 fois. Il est pris par 300 caméras entre son domicile et son lieu de travail. Alors, il y a des dizaines de centres de contrôle sur toutes les Oxford Street, qui est une grande rue commerçante du centre de Londres, on dit que les lentilles des objectifs sont si sophistiquées qu'elles peuvent mesurer la pointure des passants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des caméras de vidéosurveillance de nature extrêmement différente. Ça va depuis le petit bidule que vous pouvez acheter, une webcam que vous pouvez acheter pour 40 euros au supermarché, jusqu'à des caméras qui permettent, avec des programmes spéciaux, de reconnaître des visages, d'analyser les comportements des gens, de savoir... alors vous avez aussi les caméras infrarouges, et même des caméras chimiques, qui permettent, par exemple, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des voitures, à l'intérieur des coffres de voitures, à partir des spectres émis par les substances chimiques, etc., etc. Un exemple, c'est que dans une banlieue de Londres, des caméras cachées surveillent même les poubelles pour vérifier que les habitants respectent le jour de dépôt des ordures. C'est-à-dire qu'ils ne les déposent pas les jours où c'est... Ou c'est interdit, ou de manière à ce que les poubelles ne traînent pas. Hein. Et donc, en Angleterre, c'est la fin du texte, vous pouvez le voir, 4,2 millions de caméras de vidéosurveillance dans plus de 400 villes, hein, dont 2 millions dans les lieux publics. Vous voyez que c'est très différent des 20 000 qu'il y a en France. Hein. Une caméra pour 14 Britanniques. Bon. Moi, je pense que ça a un peu à voir avec le protestantisme. Hein. C'est-à-dire que les protestants pensent effectivement que Dieu voit tout, entend tout, et sait tout. Donc, ils ont tiré la conclusion qu'on pouvait remplacer Dieu par des caméras. On peut penser que ça sera de pire en pire, hein, ou de mieux en mieux. Ça dépend ce que vous voulez. Hein. De pire en pire ou de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que quand il arrive un crime... ben souvent on trouve ce qui s'est passé sur les caméras, hein. Et souvent c'est dissuasif, mais en même temps c'est vrai aussi que ça peut être atteinte à la vie privée, atteinte à la liberté, possibilité de garder des traces. On en reparlera, parce que comme vous êtes tous, je suppose, aussi des usagers d'internet, vous savez que un problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de savoir pendant combien de temps les traces de votre activité sont gardées sur Internet. J'espère que vous me poserez des questions là-dessus. Alors, Des autres, je vous ai parlé des appareils de photo numérique, je vous ai parlé de la vidéosurveillance, je ne parle pas de tout, hein, mais j'ai pris un autre exemple, quand je vous ai dit autre chiffre, j'ai fait des recherches sur le nombre de chaînes de télé, hein, pas les chaînes de télé internet, hein, les chaînes de télé directes. Alors là, les chiffres sont tout à fait étonnants. Aux USA, 1000 chaînes de télé directes. Depuis les chaînes, si vous voulez, où il y a des prêcheurs, jusqu'aux chaînes où on joue au bridge, les chaînes de billard, toutes les chaînes de cinéma, bien sûr, les chaînes d'aérobic et de gymnastique, les chaînes de téléachat, etc. 1000 chaînes aux États-Unis. En Inde, 1600. 1600 chaînes de télé directes. Hein, c'est-à-dire que je compte pas, si vous voulez, les petites télés que vous organisez sur Internet. Hein, c'est les chaînes de télé directes qui émettent sur les faisceaux hertziens ou sur les faisceaux ou en numérique. J'ai pris le nombre de films aussi tournés. Alors là, c'est des chiffres qui sont intéressants, mais qui ne veulent rien dire non plus, parce qu'ils s'en tournent beaucoup plus de films. Hein. Mais à Hollywood, capitale du cinéma, on tourne en gros 500 films par an. Mais il n'y a pas qu'à Hollywood qu'on tourne des films aux États-Unis. Hein. Il y a plein d'autres films qui sont tournés dans des tas d'autres endroits aux États-Unis. À Hollywood, 500 films qui sont tournés par an. Des films de cinéma, hein. Pas des films pour la télé. Hein. Je n'ai pas les chiffres des films de télé. Je crois que personne ne les a. Hein. Parce que quand vous avez 1600 chaînes de télé en Inde, le nombre de films tournés pour la télé, allez savoir. Hein. Mais nombre de films tournés à Hollywood, 500. Nombre de films tournés à Bollywood, c'est-à-dire le Hollywood indien. Hein? Bombay, hein? Bombay, Bollywood, Hollywood, Bollywood. Nombre de films tournés, environ 1000. 1000 films tournés. Les principaux producteurs de cinéma aujourd'hui sont les Indiens, avec un énorme marché intérieur et un énorme marché dans le sud asiatique. Alors, nombre de chaînes de télé en Europe, on est les meilleurs. Chaîne D pour des raisons simples, c'est parce qu'on a beaucoup d'États et beaucoup de langues. Hein? 6000 si on compte les Turcs. Hein? 6000 chaînes de télé directes en Europe, chaque pays. Et puis j'ai pris un nombre de un autre document parce que il m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il y a en France au mois de chaque année au début du mois de septembre à Perpignan. Il y a un festival qui s'appelle Visa pour l'image, qui dure depuis une vingtaine d'années, et c'est un des festivals mondiaux les plus importants de photojournalisme et de photoreportage. On n'y expose que des reportages de journalistes, des reportages de presse, Visa pour l'image. Bon, le directeur Jean-François Leroy, qui est un ami que je connais bien, m'a dit qu'il avait vu au fil des ans, puisque ça dure depuis 20 ans, augmenter de manière délirante le nombre de dossiers qui lui sont envoyés et qu'il sélectionne pour savoir ce qu'il va exposer. Parce que pendant une semaine environ, à Perpignan, vous avez une centaine d'expositions de photographies, avec souvent 3 ou 4 photographes. En gros, il doit y avoir 300 ou 400 photographes qui exposent des reportages. Mais c'est des choix qui ont été faits, et donc on en a envoyé beaucoup plus, et Jean-François Leroy me disait qu'en 2003, après le début de la guerre d'Irak, il avait reçu 900 CD d'images. 900 CD. Hein, vous imaginez combien des CD qui ont chacun 400 ou 500 images. Hein. Il avait reçu 900 CD d'images sur la guerre d'Irak, de photojournalisme. Alors, vous avez, mon sujet, c'est la prolifération des images. Je crois qu'avec tous ces chiffres, vous avez compris. Hein, vous avez compris ce que c'est que la prolifération des images. Nous en avons des quantités astronomiques, et comprenez bien que c'est parce que nous avons les moyens techniques d'avoir. Nous avons, moi qui suis beaucoup plus âgé que vous, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour un téléphone qui prendrait des photos. Hein? Téléphone qui prend des photos. Dans le temps, il y avait un petit appareil de photo qui s'appelait le Minox, qui était tout petit comme ça, un appareil de photo pour espion presque, qui ressemblait en fait à un gros stylo, hein, énorme. Mais on n'imaginait pas que vous sur moi c'est un vieil appareil de photo, de téléphone que j'ai, je prendrais des photos. C'est-à-dire, bon. On a des moyens techniques qu'on n'avait jamais eus. Et puis surtout les moyens numériques. Parce que jusqu'à, je dirais, il y a 15 ans à peu près, on prenait toutes les photos sur des pellicules argentiques. Il fallait les développer, les porter développer chez un photographe. Donc non seulement vous achetiez la pellicule, mais ensuite vous payez le développement. Et puis, il est évident que vous ne pouviez pas prendre de photos pornographiques. C'était très difficile, parce qu'il fallait aller les faire développer par quelqu'un qui les voyait avant vous. Et le début de la pornographie familiale, c'est avec le Polaroid. Mais la maison Polaroid a fermé cette année, parce qu'il n'y avait plus que du numérique. C'est-à-dire quand les gens ont plus à besoin... Les gens ont commencé à se faire de la pornographie en famille, si j'ose dire, lorsque ils n'ont plus besoin de porter chez le développeur. Vous comprenez, hein? Voilà. Alors, et maintenant, ça explique beaucoup de choses. Hein. Ça vous fait rire, mais ça explique beaucoup de choses qui sont extrêmement... qui posent vraiment problème. Hein. Je veux dire, la facilité avec laquelle on peut prendre des photos compromettantes... qui ensuite vont se retrouver balancés sur Internet, c'est un résultat de la technique. Hein. Avant, ce n'était pas possible. Avant, pour faire une photo compromettante, il fallait vraiment... on courait des risques. Hein. Il fallait passer par un développeur, et le développeur, il pouvait très bien aller vous dénoncer à la police, hein, tout simplement. Bon, alors, ça, c'était les chiffres. Alors, ce que j'ajoute maintenant, parce que vous vivez dans ce monde moderne, vous avez tous des appareils des téléphones... La plupart d'entre vous doivent sûrement avoir des téléphones qui prennent des photos. Hein. Y a plus que ma femme qui a un téléphone sans photographie, puisqu'elle se sert pas, elle se sert même pas, elle s'en sert que pour téléphoner. Elle n'a même jamais voulu apprendre à y inscrire un numéro, donc sans téléphone. Donc, mais elle s'en sert beaucoup, hein, en revanche. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très récent, très très récent. Vous l'avez là. Qu'on ait des images. Je vous parle de la prolifération des images, mais jusqu'au début du 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à il y a 200 ans, jusqu'au début du 19e siècle, le monde, les hommes, ont vécu dans un monde où il n'y avait presque pas d'images, et quelquefois, pas du tout d'images. Pas du tout d'images. C'est-à-dire, réfléchissez une chose. Vous, un miroir, ça vous paraît simple. Pendant très longtemps, les miroirs ont été absolument réservés aux gens très riches, parce qu'il fallait, pouvoir maîtriser la technique du miroir, c'est-à-dire la technique d'abord du verre, et puis du verre ensuite avec une couche d'étain derrière pour servir du miroir. Pendant l'Antiquité grecque et romaine, le miroir c'était toujours du métal poli. Donc vous voyez comment on se voyait dans du métal poli. Hein. Et puis on pouvait aller se regarder dans le ruisseau. Hein. C'est le mythe de Narcisse qui aimait tellement son image qu'il se noie en se regardant dans le ruisseau. Il n'y avait pas de miroir. Évidemment, il n'y avait pas de photo. Hein. Photo, c'est 1839, l'apparition de la photo. Pas de photo. Mais ce qui est plus... Si on pioche plus, on s'aperçoit que les gens avaient très peu de techniques de reproduction. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas reproduire les images. On pouvait faire des gravures, c'est-à-dire vous avez un tableau, par exemple, qui vous plaît, vous allez le dessiner à l'envers, hein, c'est pas facile à faire, vous allez le dessiner à l'envers sur une plaque de cuivre avec un stylet en métal. Après, vous avez certaines opérations où vous allez agrandir les lignes avec de l'acide, des choses comme ça. Bon, je passe là-dessus. Et puis après, vous allez tirer votre plaque sur du papier avec une presse et vous allez en tirer un certain nombre d'exemplaires. Mais la technique de la gravure, ce n'était pas la photocopieuse. C'est-à-dire que quand vous aviez tiré 20 gravures à peu près, après, votre plaque, elle était foutue. Donc, vous ne pouviez plus en tirer. Les gravures sur cuivre, les gravures sur bois, c'était des gravures qui étaient tirées à 20, 30, quelquefois 40 exemplaires quand elles étaient de mauvaise qualité, et puis c'était fini, il fallait en refaire une autre. Donc recopier le tableau de nouveau à l'envers pour en faire. Et donc par exemple, la plupart des gens qui vivaient dans des villes où il n'y avait évidemment pas de musée, ils n'avaient jamais vu une peinture. Quelquefois, pour les plus argentés, ils avaient vu des gravures en noir et blanc, bien sûr, qui leur représentaient les tableaux fameux. Mais la plupart des gens n'avaient rien vu du tout. Ils n'avaient pas, pas accès aux gravures, pas de technique de reproduction. Alors évidemment, pas de moyens de communication non plus. Le journal est quelque chose qui date, le journal au sens où nous le connaissons est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle, quand on a les techniques de reproduction sur rotative et qu'on peut tirer beaucoup de choses et puis qu'on peut les acheminer par le chemin de fer. Parce que sinon, avant, vous tiriez un journal et puis comment vous l'envoyez à Marseille ? Vous n'alliez pas l'envoyer par la diligence. Hein ? Donc pas de moyens de communication et évidemment pas de télécommunication. Hein ? Alors, par exemple, dans les familles, c'est une chose qui est très connue à la Renaissance, dans les familles nobles, où souvent les mariages étaient arrangés d'avance, en fonction des intérêts financiers, des intérêts aussi princiers, des principautés, eh bien, pour qu'un fiancé sache à quoi ressemblait sa fiancée, et que pour que la fiancée sache à quoi ressemblait son fiancé, on faisait venir un peintre qui faisait un portrait, un petit portrait comme ça, et ce portrait allait être avec face et profil, et on l'envoyait dans la famille du promis. Et, ces portraits sont tout à fait connus. C'était l'équivalent de la photographie. Mais encore une fois, il fallait avoir les moyens de se payer un peintre. Hein. Donc, dites-vous bien qu'on est passé d'un monde qui était archi pauvre en images, et donc où on était à la fois fasciné par les images et on en avait une peur panique. On avait très peur des images. Parce que les images avaient quelque chose de... On avait l'impression qu'on nous volait quelque chose quand on nous prenait notre image. Eh bien, on est passé à un monde où c'est la profusion. Hein, je veux dire, des portraits de vous, il y en a partout. Hein, je veux dire, et si vous avez sur Facebook ou sur Twitter ou sur je ne sais quoi... vous avez votre binette, hein, plus la binette de vos amis. Sur les sites des anciens élèves des établissements scolaires, vous avez la binette des gens. Vous avez des images partout. Hein. Moi, je fais souvent des recherches sur Internet extrêmement simples. Je suis surpris de voir le nombre de gens inconnus dont on trouve la binette sur Internet. Vous faites une recherche Google Images, vous trouvez la binette de gens qui sont... Ils n'ont aucune raison d'avoir leur image diffusée dans le monde entier. Donc on est passé à un monde de profusion d'images. Alors je vous donne par exemple un exemple de ces portraits. Hein. C'est un peintre qui s'appelle Petrus Christus, Pierre Christ. C'est au XVe siècle, 1475, hein, 1460. Portrait d'une jeune fille. C'était visiblement une jeune fille dont on envoyait le portrait à un... on l'appelle quelquefois la Mona Lisa du Nord. Portrait d'une jeune fille, c'était visiblement une jeune fille à marier ou qui était fiancée, et on envoyait son portrait à la famille du fiancé. Alors, le moment tournant, mais aujourd'hui ça a pris une toute autre dimension, le moment tournant, c'est l'invention de la photographie. Donc c'est la date où l'on fixe, parce que vous savez, c'est toujours pareil, les Anglais disent que c'est eux qui ont inventé la photographie, les Français disent que c'est les Français, c'est classique, hein, et les Allemands ont sûrement un inventeur à eux. C'est 1839, hein, autour de 1835, 1840, tout le monde cherche à inventer la photographie et trouve. Ça avait commencé un petit peu avant, avec la première technique de reproduction, non pas de masse, mais de reproduction à quand même beaucoup d'exemplaires, ce qu'on appelle la lithographie. C'est-à-dire on peint des images à l'envers toujours sur des pierres très lisses, on les enduit de certains liquides chimiques, ensuite on met des couleurs, ça permettait de faire des affiches en couleurs, et puis ensuite on les imprime à travers un écran de soie. La lithographie, ça a été inventé en 1796, et chose que je souligne absolument, c'est les premières formes de publicité dans les années 1820-1830, c'est grâce à la lithographie. C'est-à-dire quand on peut commencer à faire des affiches en couleur. Et là, on peut tirer une lithographie à une centaine d'exemplaires, avec des couleurs. Et c'est à ce moment-là que commence la publicité. Parce qu'avant, on ne peut pas faire de publicité. On peut faire un petit tract, mais écrit en disant « ma savonnette est la meilleure du monde ». Mais on ne peut pas la montrer, on ne peut pas mettre de couleur, on ne peut rien faire. Hein, je veux dire, il n'y a pas... La publicité, elle naît avec les possibilités de reproduction. Et une chose sur laquelle j'insiste, parce que ça, personne ne le sait en général, parce que c'est un domaine qui est très abstru à étudier, très difficile à étudier, et très technique, c'est que la photographie, pour nous maintenant, la photographie, elle est dissociée complètement de l'impression. Hein. Vous avez vu les chiffres, tant de Français impriment leurs photos, etc. C'est dans ma première diapositive. Hein. Mais aujourd'hui, la photo, on la regarde sur l'ordinateur, on la regarde sur l'appareil de photo, de téléphone, et puis on la jette ou on l'archive, mais on l'imprime pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la photographie a tout de suite été indissociable des techniques d'impression sur papier. Impression sur papier pour les journaux. La photographie, elle a d'abord servi à mettre des images dans les journaux. Et toutes les étapes de perfectionnement de la photographie sont aussi des étapes de perfectionnement des techniques d'impression de papier journal. Alors ça, c'est un sujet abominablement compliqué, mais disons qu'on ne peut pas dissocier l'histoire de la photographie de l'histoire des imprimantes, en quelque sorte. C'est-à-dire il y a les photos qu'on peut imprimer de telle manière, avec telle définition, celles qu'on peut imprimer à tant d'exemplaires dans des journaux qui sont imprimés à telle rapidité. L'histoire de la photographie au XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle est absolument inséparable de l'histoire des techniques d'impression et d'imprimerie des journaux. L'idée d'une photographie pour elle-même est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, mais qui est quelque chose qui est très limité. Et alors, par rapport à ça, regardez aujourd'hui ce que c'est. Hein. Je veux dire, vidéo et photo, ben vous pouvez tous faire des vidéos, vous pouvez tous faire des photos avec votre appareil votre appareil de téléphone ou votre appareil numérique ou votre caméra numérique ou votre webcam, etc. Il y a en plus des moyens de communication immédiats et ouverts à tout le monde. Les sites de partage, les chaînes, YouTube, Dailymotion, tout ça. Hein, vous les connaissez bien, vous regardez sur tout ça. Et puis, vous avez la transmission Internet aussi immédiate. Vous pouvez envoyer par Internet, vous prenez une photo, vous l'envoyez et vous l'envoyez immédiatement à votre ami à l'autre bout du monde. Hein. Voilà. Donc ça, c'est moment tournant et ça aboutit à cette énorme quantité d'images qu'on a aujourd'hui. Alors, j'en viens à mon deuxième point. C'est quoi une image ? Bon, alors là, inutile de dire, je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un des sujets les plus compliqués. On avait tendance à penser, parce que pour vous, à mon avis, c'est fini. Hein, c'est fini. On avait tendance à penser qu'une image, c'est un échantillon de la réalité. C'est-à-dire, c'est l'empreinte de la réalité sur une pellicule photographique. C'est comme ça que pendant très longtemps, on a défini l'image photographique. C'est une empreinte de la réalité sur la pellicule photographique. En fait, maintenant qu'il y a les appareils numériques, qu'il y a les ordinateurs, on sait qu'une image, bon, c'est certainement quelque chose qui ressemble à la réalité, mais c'est quelque chose de fabriqué, de totalement fabriqué, à l'aide d'instruments. Alors, dans le passé, l'instrument, c'était la main, hein, quand on dessinait une image. Ensuite, l'instrument, c'est l'appareil de photo. Mais aujourd'hui, c'est la caméra, c'est le téléphone, c'est la caméra infrarouge, c'est la caméra chimique, etc., etc., etc. Une image, elle est toujours fabriquée, et elle est toujours fabriquée à travers un dispositif technique. Vous n'avez pas d'image sans dispositif technique. Alors évidemment, encore une fois, la main du dessinateur, c'est un dispositif technique. Hein. Un dispositif technique humain, mais c'est un dispositif technique. Mais depuis, nous avons toujours rapport aux images à travers des dispositifs techniques. Donc c'est quelque chose de fabriqué. Et qui dit fabriqué, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être trafiqué, qui peut être manipulé, qui peut être trafiqué. Si vous avez regardé les appareils photonumériques, vous savez bien qu'il y a toujours un dispositif qui vous permet d'enlever les yeux rouges. Hein, quand vous photographiez quelqu'un, la plupart du temps avec un flash, les gens ont des magnifiques yeux de petits cochons rouges. Mais vous avez un dispositif qui vous permet d'enlever les yeux rouges. Et sur vos logiciels de retouche d'image, de retouche de photo, vous pouvez aussi, de la même manière, sur votre ordinateur, enlever les yeux rouges des photos. Vous pouvez les corriger. Hein, et les photos, à ce moment-là, elles sont toujours des images de la réalité, mais trafiquées. Deuxième chose, c'est ma deuxième remarque ici, c'est toute image, elle est cadrée. Elle est cadrée, c'est-à-dire, vous photographiez une chose en laissant des choses à côté, hein, vous soustrayez, vous prenez, si je prends une photo d'une partie de la salle, je cadre sur certaines personnes, et puis il y en a d'autres qui seront moins centrales, et puis il y en a d'autres qui ne seront pas du tout dans le tableau. Bon, toute photo, elle est cadrée, et alors aujourd'hui, elle est aussi corrigée, retouchée, et c'est ce qu'on appelle la photoshopisation, hein, le logiciel Photoshop, qui est devenu le logiciel de référence. Toute photo est aujourd'hui photoshopée. Je vais vous donner des illustrations tout de suite. Ça, c'est une deuxième chose. Donc, une image, elle est forcément travaillée. Travaillée, produite artificiellement, travaillée. Et puis, elle est aussi prise dans un contexte. Alors ça, c'est pas le contexte dans lequel on a pris l'image. C'est le contexte dans lequel elle va être montrée, l'image. Si vous voulez... Si je remonte à cette image-là, cette image, d'abord, c'est une reproduction. Elle, à mon avis, elle ne vaut pas grand-chose par rapport au tableau. Hein, donc déjà, c'est une mauvaise image. Et d'autre part, vous la voyez ici dans un contexte particulier. C'est au lieu de la voir au musée municipal de Berlin, où elle serait sur un mur, toute seule, avec un écriteau, avec un gardien assis dans le coin... Vous la voyez ici, dans un autre contexte, c'est-à-dire dans le cadre d'une conférence sur la prolifération des images. Donc vous voyez ce que je veux dire, que toute image, elle est donnée dans un contexte. Et ce contexte, c'est l'image qui est avant, et l'image qui est après, et puis le contexte, c'est aussi la mise en page, le légendage, le cadrage... ça dépend si c'est dans Paris Match par exemple ou si c'est dans une revue d'art par exemple, la même image elle sera dans un contexte différent. Quand vous voyez un reportage sur les grands peintres dans Paris Match, c'est pas la même chose qu'un reportage sur les grands peintres dans une revue comme Connaissance des Arts. Donc toute image elle est dans un contexte, pas le contexte où on l'a prise mais le contexte où elle est montrée, hein. C'est, y a une image avant, il y a une image après, il y a une mise en page, il y a des légendes. Et puis, dernière affirmation, c'est que toute image, elle est prise dans un flux d'autres images. Elle est prise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce n'est pas l'image d'avant, l'image d'après, mais c'est toutes les images d'avant et toutes les images d'après. C'est-à-dire tout ce qui est en boucle, par exemple. Tout ce qui est en boucle, quand vous allez dans une galerie marchande, vous avez des images qui tournent en boucle, par exemple. C'est ce que je veux dire, qu'une image, elle est toujours prise dans un flux d'autres images. C'est pareil quand vous regardez la publicité à la télé. Quand vous regardez la publicité à la télé, une publicité ou une image publicitaire, elle est prise dans le flux des images publicitaires, et puis ensuite elle sera prise dans le flux du journal télévisé, etc., etc., etc. Donc toute image est prise dans un flux d'images. Alors, sur le retouchage des images, ben, j'ai pris un exemple simple, c'est par image du 9 août 2007... où Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore remarié, prendre ses vacances, je crois sur le Lake Tahoe, aux États-Unis, avec son fils, c'est le petit Louis, le fils de Cécilia Sarkozy. Et vous avez l'image d'en haut, qui est parue dans Paris Match, et puis vous avez l'image... vraie, mais entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si elle était vraie, l'image d'en bas, qui n'était pas retouchée, parce qu'il avait moins maigri que maintenant, il était il n'est pas très gros, mais il était un peu plus gros, et il avait un petit peu des bourrelets à la taille. Ah, qu'à cela ne tienne, on lui a enlevé les bourrelets. Hein, donc vous avez l'image d'en bas, où Sarkozy a les bourrelets, et puis l'image d'en haut, celle qu'on a montrée, où il est beaucoup plus beau et présentable, il a été photoshopisé, comme on dit. Hein, on l'a passé au Photoshop, et il est beaucoup plus beau, mince et mignon. Mais c'est vrai pour tout le monde. Hein, c'est vrai pour tout le monde. L'autre jour, l'autre jour, je passais dans une émission de télévision. je devais passer une émission de télévision qui allait être enregistrée. Et je suis allé au studio, en plein milieu de Paris, je suis allé au studio de télévision où on enregistrait l'émission. Alors j'arrive et je vois à l'entrée une dame relativement élégante, relativement âgée aussi, même plutôt âgée, belle, qui avait été belle, et je me dis... Non, mais je vais vous expliquer, et je me dis... c'est marrant qu'il y ait des gens de cet âge qui travaillent encore. Parce qu'elle était à l'entrée du studio, je pensais qu'elle était là pour faire hôtesse, si vous voulez. Ça m'a semblé bizarre. Elle avait du charme, elle avait été belle, mais elle était vraiment vieille. Hein. Non. Et j'arrive dans le studio et ça se passait en deux enregistrements, si vous voulez. C'était une émission avec des épisodes. Donc il y avait avant moi, il y avait l'épisode avant moi, c'était un portrait de Claudia Cardinal. Et bien la dame en question, c'était Claudia Cardinal. Or, moi, ce que j'avais vu, c'était des photos récentes de Claudia Cardinal dans Paris Match, où elle faisait largement 15 ans de moins. Hein? Tout simplement parce que dans Paris Match, elle a été photoshopisée à mort. Et quand je l'ai vue en réalité, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas Claudia. Et ensuite, je me suis dit, cette dame, c'est pas celle-là que j'ai vue. Ben si. Et alors, à la télévision, là aussi, il y a eu le maquillage. Et puis, vous savez, les caméras de télévision, ça arrange aussi. Elle était plus jeune. Or, c'était la même personne que j'avais vue. Et effectivement, aujourd'hui, il y a même eu une députée qui a demandé, il faudrait interdire, on devrait mentionner, ça serait drôle d'ailleurs sur Paris Match, c'est de dire, attention, cette photo de Nicolas Sarkozy a été retouchée. Hein? Il faudrait mentionner qu'il y a eu des retouches. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les photos de vedettes, de vos vedettes favorites, etc., qui paraissent dans la presse, ont toutes été retouchées. Toutes. Hein? Sharon Stone a l'air incroyablement jeune, alors qu'en fait, en réalité, elle a son âge. Hein. Elle est plus près de 50 ans que de 35. Hein. Donc, toutes les photos aujourd'hui sont retouchées. Et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est jeune, et tout le monde, il est mince, et tout le monde, etc. Si vous cherchez bien sur Internet, si vous cherchez sur Google et que vous cherchez Photoshop, photoshopisé, vous trouverez une petite vidéo où on vous montre comment, avec le logiciel Photoshop, on peut transformer une dame obèse en une dame toute mince. Hein? Et c'est la vidéo, elle dure 5 ou 6 minutes, et c'est toutes les opérations que fait le retoucheur pour gommer les bourrelets, les fesses trop lourdes, les machins, ça, et puis finalement, avoir un beau mannequin à partir d'une photo d'une femme presque obèse. Hein? Voilà. Alors, donc, maintenant, je dirais... je vous ai parlé des images. Quelles questions il faut se poser sur une image? Bon, ben, je dirais qu'aujourd'hui, c'est drôlement compliqué, les questions qu'il faut se poser sur une image. C'est-à-dire que, bon, avant, on se disait, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est conforme à la réalité ou est-ce qu'elle est fausse? Mais il faut se poser la question de, est-ce qu'elle est truquée ou pas? Et comment elle est truquée? Comment elle est truquée? Jusqu'à quel point elle est truquée? Parce qu'il y en a qui sont très truquées, il y en a d'autres qui sont moins truquées. Hein? La photo de Sarkozy, elle n'est pas très truquée. Hein? En revanche, ce qui serait drôle, si vous voulez, une photo truquée, c'est si à la place du gamin, on avait mis Cécilia. Et c'est tout à fait possible. Hein? On peut vous truquer tout ce qu'on veut sur les photos. Et récemment, il y avait, quand M. Giscard d'Estaing a publié son roman dans lequel il laissait entendre qu'il avait une tendre aventure avec Lady Diana, Paris Match a publié une photo de couverture où on voyait M. Giscard d'Estaing et Lady Diana. Et il avait l'air très réjoui, comme quelqu'un qui est amoureux et qui est heureux en amour. Et elle avait l'air un peu rouge. Donc on se disait, mais d'où ils sortent? D'où sortent-ils? Simplement, quand on regardait mieux, et ça je veux dire, c'est incroyable, hein, quand on regardait mieux la photo, on s'apercevait qu'il y avait un sac à main qui traînait entre eux. Et en fait, les gens de Paris Match, ils ont tout simplement enlevé la femme de Giscard d'Estaing, qui était sur la photo originale. Il y avait Anémone Giscard d'Estaing qui était au milieu, et ben, ils l'ont enlevée pour faire la promotion du livre de Giscard et de son aventure avec Lady Diana. Alors, ça, c'est des choses qui sont très connues en politique, et notamment dans les années 1930, quand il y avait des purges, c'est-à-dire quand il y avait la terreur dans les pays de l'Est, quand les gens tombaient en disgrâce, on les enlevait des photos. Alors, quelquefois, c'était mal fait. Moi, je me souviens d'une photo qui avait été prise en Albanie, où tous les amis du dictateur avaient été passés à la casserole. Ils avaient tous été tués, finalement, les uns après les autres. Alors, j'avais vu une photo du dictateur quand il était au lycée, comme vous, photo de classe, et on avait enlevé presque tous les gens qui étaient morts. Simplement, on avait laissé les pieds derrière. Non, c'est-à-dire qu'ils avaient oublié d'enlever des pieds. Alors, il y avait des pieds sans personnage derrière, dans la photo. Ça avait été mal fait, la retouche. Aujourd'hui, avec Photoshop, personne ne ferait ça. Mais en tout cas, il restait le sac à main d'Anémone Giscard d'Estaing en première page de Paris Match, mais il n'y avait plus Anémone Giscard d'Estaing. Donc, truqué ou pas, une question intéressante, c'est, il faut toujours savoir, faites par qui la photo, qui c'est qui a fait la photo, et savoir si c'est un photographe lambda, un amateur, un professionnel, de quelle partie il était. Un élément extrêmement important, c'est la légende. La légende, elle change tout. Elle change tout dans une photo. Selon la manière dont vous la titrez, vous changez tout. Et puis, côté droit, ça c'est sur les questions qu'il faut se poser sur l'image, côté gauche, la colonne de gauche. Mais côté droit, c'est sur le contexte qu'il faut se poser. C'est la photo, l'image, elle est utilisée dans quelle histoire ? Aujourd'hui, on dit beaucoup storytelling, c'est raconter une histoire. Dans quel récit on utilise l'image ? Par exemple, dans le cadre de la couverture de Paris Match, la photo était, dans le storytelling, le président Giscard d'Estaing a eu une aventure avec la princesse Diana dans les années 1990. Ça, c'était ça, le contexte narratif. Si on avait dit le président Giscard d'Estaing participait à des galas humanitaires, ça aurait été une autre histoire. Vous voyez ? Donc, le storytelling... Et réinscrite aussi, on réinscrit dans quelle narration, par exemple, dans le cas de Sarkozy, comment on raconte cette histoire des vacances de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avec son fils, l'été américain, aminci, solitaire, sans sa femme, etc. C'est ça qui est réinscrite dans une histoire. Donc on est toujours obligé. Alors ça c'est une image très violente, mais elle pourrait l'être beaucoup plus. C'est une question qui se pose pour les images, c'est qu'un certain nombre d'images sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui des icônes. C'est une sorte d'image sacrée qui symbolise beaucoup de choses. Alors ça c'est une fameuse image qui a valu le prix Pulitzer à son auteur. En 1968, c'est le chef de la police sud-vietnamienne qui s'appelait Nguyen Ngoc Luang. Pendant l'insurrection du Tet, a abattu un prisonnier Viet Cong en pleine rue. Et là, il lui tire une balle dans la tête. Bon, ça c'est l'icône. Ça c'est une vraie icône, c'est-à-dire, ça s'est passé, on a la photo d'avant, avant qu'il sorte son revolver, on a la photo d'après, avec le type par terre dans son sang, avec le crâne fracassé. C'est un vrai photo de reportage, mais elle a pris une valeur d'icône. C'est devenu une icône de la barbarie de la guerre du Vietnam lorsque les Américains étaient engagés au Vietnam du Sud. Bon, mais vous avez des icônes, celle-ci est très fameuse aussi, des icônes qui sont fabriquées. Ça, c'est une en 1997. C'est un photographe qui s'appelle Ho Sin qui a présenté une photo magnifique d'une femme pleurant sur les corps des morts lors des massacres du fils du Front islamique du Salut en Algérie. Or, il se trouve que cette photo, on sait maintenant que ce n'est pas une photo authentique, c'est une photo qui a été posée, comme par un artiste, et qu'elle a été mise en scène. C'est une photo qui a été mise en scène, et donc c'est aussi une icône. Et vous voyez la différence qu'il y a. À la fois, il n'y en a point par rapport à la précédente. Et quand cette image elle est sortie, tout le monde l'a vue comme le symbole de la douleur et de la perte de l'enfant, etc. Et c'est ça, mais il se trouve que c'est une image qui a été fabriquée, composée, et je dirais même fabriquer et composer en se souvenant des Pietà, de la mère de la Vierge Marie au pied de la croix, pleurant le Christ mort, etc. etc. Donc, c'est la question des icônes. Alors, j'en viens, je rassurez-vous, je vais bientôt m'arrêter. Les effets, puisque maintenant, on a surtout affaire aux images. Alors, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup, grâce aux images ou par image. Alors, je signale quelques effets. C'est d'abord, ça va vite. Les images, ça va vite. On comprend beaucoup plus vite, beaucoup mieux que si il y avait une longue narration. Si on vous dit la narration, si on disait on a vu, on a assisté à l'hôpital d'Alger à des scènes de douleur où des femmes pleuraient leurs enfants ou leurs frères tués par les militants du Front islamique du salut, etc., etc. Vous voyez, c'est long de lire l'histoire, et quelquefois on la lit pas. Là, l'image, elle est regardée vite. D'autre part, deuxième chose sur l'image, on la regarde globalement, d'un coup. Et c'est fait pour ça. Mais du coup, on ne fait pas attention aux détails. Alors moi, je suis quelqu'un qui fait, comme je suis beaucoup plus un homme de livres qu'un homme d'images, mais j'adore les images aussi, mais comme je suis un homme de l'ancien temps, je les regarde en détail. Et je m'aperçois que c'est fou ce qu'on peut apprendre quand on regarde en détail une image, mais que les gens n'ont pas vu. Parce qu'ils ne font pas attention à la manière dont... du détail, ils voient vite, ils voient en passant en quelque sorte, mais ils ne voient pas, je veux dire, tous les détails. Et les détails sont souvent extrêmement importants pour comprendre des choses, parce que d'abord, il y a des choses que les gens oublient, même les photographes oublient. Ils oublient que c'était là. Et donc, ils le laissent passer. Et troisième chose, c'est que bien sûr, l'image entraîne une pensée par analogie. C'est-à-dire, quand je vous montre cette image, je dis, ça fait penser aux images des descentes de croix, par exemple, dans la peinture religieuse européenne. Ça ressemble à la Vierge Marie qui serait consolée par une suivante, ou Marthe, ou je ne sais qui, ou la Madeleine, après la mort du Christ. Donc, on pense par analogie, les images s'associent comme ça, par analogie. Ensuite, l'image, elle a un impact émotionnel très important. Impact émotionnel très important. Le récit n'a pas le même impact émotionnel. Si je prends cette image affreuse de l'exécution, si je dis le chef de la police sud-vietnamienne a tué de sang-froid un suspect Viet Cong en pleine rue de Saïgon, ça n'a pas le même choc émotionnel que cette photo d'un homme qui est en train d'être assassiné par un autre, et donc on voit au moment où il reçoit le coup fatal. Donc les images ont un impact émotionnel très important. Alors une chose aussi très importante, c'est que nous regardons, vous regardez de plus en plus, nous regardons avec une attention flottante. C'est-à-dire on fait attention et en même temps on ne fait pas attention. On voit passer des images, et on y fait attention, mais en même temps, ça flotte. Bon, on se souvient vaguement, on l'a senti passer, etc. Et du coup, on glisse d'une image à une autre, sans cesse, très rapidement. On feuillette, comme on feuillette Paris Match. Et puis, du coup, il y a ce qu'on appelle des effets de perception subliminale, c'est-à-dire des contenus de l'image qui font effet sur nous sans qu'on en soit conscient. Alors, il y a des images subliminales qui sont d'ailleurs en principe interdites, c'est-à-dire rajouter des images dans les films ou dans les vidéos, rajouter des images qui ne seront pas perçues dans le défilement des images, mais qui auront un effet publicitaire. On peut rajouter subrepticement dans des films ou dans des vidéos des images que le spectateur ne perçoit pas consciemment, mais qu'il enregistre quand même. C'est ce qu'on appelle la perception subliminale, les effets inconscients. Et ça, c'est aussi des choses très importantes. Et du coup, c'est l'ambivalence de la réflexion. Les images, elles sont formidables, elles sont passionnantes, elles ont beaucoup d'effets, et en même temps, elles ont des dangers très importants pour la pensée, pour l'attention, pour la connaissance aussi. Quand on ne fait pas attention au contenu d'une image, on a vu l'image, on est scandalisé. Alors, en politique, c'est continuellement utilisé, ces images-là. On les coupe, on les redécoupe, on les recadre. Et on peut transformer une image qui est favorable à un parti à une image qui lui est défavorable. Hein. Il suffit de la recadrer et puis de laisser de côté un élément qui permettait de comprendre la scène autrement. Alors, je conclue maintenant sur l'hygiène de la pensée. Quelles attitudes faut-il avoir et quels sont les remèdes? Alors moi, je crois que si... je ne vais pas vous faire la morale, hein, c'est pas mon genre, mais ce dont vous pouvez faire attention, c'est d'abord, il faut se méfier énormément des images. Et il faut se méfier parce qu'aujourd'hui, et ça sera de pire en pire, elles sont retouchées, elles sont fabriquées et elles sont falsifiées. Encore une fois, quelqu'un qui lit Paris Match et qui se dit que c'est des images vraies, à mon avis, se trompe 9 fois sur 10. C'est des images qui sont énormément trafiquées. Hein, trafiquées pour les rendre plus jolies, pour les rendre magnifiques. C'est là où c'est intéressant de regarder en détail les images. Par exemple, moi, une des choses qui m'amuse beaucoup quand je regarde Paris Match, j'adore les images, donc j'en vois beaucoup hein, aussi. Mais quand je lis Paris Match, une des choses qui me passionne, quand il y a des reportages sur les vedettes et qu'on les voit chez eux. Alors, c'est toujours somptueux, etc., clinquant. Je me rappelle un reportage chez Johnny Hallyday, c'était superbe. Puis quand vous regardez dans le détail, vous apercevez qu'il y a des trucs pas possibles et qu'il a en fait un goût absolument épouvantable, qu'il a des objets de décoration misérables, certains, et qu'il a un très mauvais goût sur des tas de trucs. Mais quand vous regardez en gros l'image, c'est somptueux, c'est chic parce que c'est cher, etc. Puis vous voyez, et si vous regardez bien, vous dites, mais non, un chien, il a un goût épouvantable, il achète des trucs affreux, etc. Mais il faut faire attention à ça. Donc il faut se méfier des images, parce qu'encore une fois, elles sont retouchées, fabriquées, falsifiées. Puis deuxièmement, c'est ce que je viens de dire, il faut faire attention. Il faut la lire de près, l'image. Il faut faire attention à la légende. Il faut faire attention au contexte. Il faut regarder les détails. Il y a une expression que j'aime bien. On dit toujours que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Quand vous regardez les choses en gros, elles passent toujours bien. Elles passent toujours en gros. Quand vous regardez dans les détails, c'est jamais bien clair. Hein? En gros, c'est super. C'est toujours super. En gros, tout le monde est beau, tout le monde est honnête, tout le monde est gentil, tout le monde est en bonne santé. Quand vous regardez dans les détails, eh bien, c'est un petit peu différent. Hein? C'est pas aussi bien qu'on croyait. Le diable est dans les détails. Et puis, dernière chose, et c'est là que je m'arrêterai, c'est que réfléchissez à ça, parce que c'est plus vrai pour vous que pour les gens de ma génération. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai vécu d'abord dans un monde où il y avait peu d'images, puis je suis arrivé petit à petit dans un monde où il y en a beaucoup et de plus en plus. Mais pensez que vous êtes dans un monde qui est de plus en plus organisé à travers la manière dont vous le voyez, à travers des images. C'est-à-dire que de plus en plus, le monde, c'est une sorte de vidéo. Hein? C'est-à-dire que vous le voyez de plus en plus à travers des images. Une chose qui m'amuse beaucoup, quand on voyage, vous avez des gens qui passent leur temps à prendre des photos. Ils sont devant un plus beau paysage du monde, et ils ne le regardent pas, ils le photographient. Et souvent même, si vous regardez bien, quand vous vous baladerez, avec vos parents et que vous irez faire un peu de tourisme, vous verrez que les gens, souvent, ils regardent non pas le monde, mais ils regardent à quoi ressemble le monde sur l'écran de leur appareil de photo. Ils regardent le monde à travers l'image qu'ils en prennent. Et de plus en plus, effectivement, nous voyons le monde à travers des vidéos, à travers des images, à travers des vidéos qui sont en plus pas bonnes, qui sont grises, qui sont tremblées, etc. Mais du coup, ça devient tout un peu irréel. Alors, ça ne veut pas du tout dire que le monde ne soit pas réel. Quand vous rentrez, normalement, c'est en marchant sur vos pieds. Hein. Ce n'est pas sur un tapis volant. Mais pensez que nous avons de plus en plus tendance à voir le monde à travers des images. Hein. Et notamment à travers des images, en plus, qui sont fabriquées, retouchées, instrumentalisées. Je terminerai sur une chose qui m'a... J'ai pas eu le temps de vous la chercher, mais c'est une image qui m'a toujours énormément plu. C'est pendant la campagne électorale de 2007. La campagne électorale de 2007, Nicolas Sarkozy, vous savez qu'il a un très bon sens de la communication, mais tous les hommes politiques ont un bon sens de la communication aujourd'hui. Si un homme politique qui communique pas, on n'en entend pas parler. Bon, il communique pas bien, on n'entend pas parler. Et Sarkozy, il est allé en Camargue. Je ne sais pas si certains ont vu cette image, parce que vous étiez peut-être encore plus jeune à l'époque. En 2007, il est allé en Camargue. Bon, qu'est-ce qu'il y a en Camargue? Il y a des chevaux. Qu'est-ce qu'on fait quand on va en Camargue? On monte sur un cheval, hein, même si on ne sait pas faire du cheval. Et Sarkozy, pour montrer qu'il était un vrai chef, il est monté sur un cheval. Sur les photos de Sarkozy sur son cheval, déjà, je trouve qu'il était, il était courageux, parce qu'il aurait pu aussi tomber du cheval, et ça aurait été très mauvais pour sa communication politique. Mais il n'est pas tombé. Mais quand on voit les images, on voit qu'il n'est pas, c'est pas un cavalier, hein, et qu'il n'est pas très à l'aise, qu'il est même un peu craintif. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une photo, et je vous laisse là-dessus, sur cette photo, je vous la décris justement. Il y a une photo où on voit Sarkozy sur son cheval blanc, évidemment, c'est un crin blanc, hein, c'est le cheval camarguais, sur son cheval blanc, un peu crispé, parce qu'il a peur de tomber. Et puis, la photo a été prise par un photographe qui était un peu derrière lui, et puis sur la gauche, au fond, à gauche, on voit un tracteur. Le tracteur a une remorque, une grosse remorque pour ramasser la paille. Et sur la tracteur, il y a, sur la remorque, il y a à peu près 40 ou 50 photographes qui sont tous avec leurs appareils, leurs pieds, leurs caméras, etc. parce qu'on leur a organisé la, scène, la séance de photographie. Et donc, ils sont tous là en train de photographier Sarkozy. Et ça vous explique tout, en fait, sur ce que c'est que l'image aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez la pose de l'homme politique. Et puis vous avez la fabrication de l'image, c'est-à-dire on a dit aux journalistes, si vous voulez avoir une photo de Sarkozy monté sur un cheval blanc en Camargue, il faut que vous veniez tel jour à telle heure, on vous conduit là, on vous monte sur une remorque, on vous trimballe sur 500 mètres, et ensuite vous pourrez photographier le futur président de la République. Et cette image, elle est absolument très drôle, cherchez-la un jour, vous la trouvez parce qu'elle est assez connue, elle dit bien, si vous voulez, comment les images aujourd'hui sont à la fois fabriquées et en même temps sont notre vie. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez voir Sarkozy, eh ben, il faut monter sur la remorque. Voilà, merci.